Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère en charge du logement sur Radio Territoria.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro, une émission que nous allons consacrer à la mise en œuvre de la programmation des logements locatifs sociaux pour l'année 2021. Et pour en parler, eh bien je suis comme d'habitude en compagnie de Michel Félep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Et je rappelle que vous êtes chargé de mission animation territoriale au sein de la direction chargée de l'habitat et de l'urbanisme des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau quelqu'un qui nous rejoint pour la première fois. C'est Laurent Bresson. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes sous-directeur des politiques de l'habitat à la direction chargée de l'habitat et de l'urbanisme des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et avec vous, nous allons tout savoir sur ces logements locatifs sociaux pour l'année 2021 en cours. C'est parti pour la thématique du MAG.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Avant de démarrer, petit rappel de quelques points. La production de logements sociaux fait l'objet d'une programmation annuelle, pilotée dans le cadre d'une instance partenariale, le FNAP, le Fonds National des Aides à la Pierre, pour répondre aux besoins de logements à loyer maîtrisés de tous les Français, en visant prioritairement les territoires où le marché immobilier est très tendu. Ce soutien à la production de logements sociaux, dont les moyens budgétaires sont ciblés sur le logement très abordable, contribue également à la mise en œuvre du plan pour le logement d'abord et la lutte contre le sans-abrisme, ainsi qu'à la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. On peut rappeler également qu'actuellement, plus de 2 millions de nos concitoyens demeurent en attente d'accéder à un logement social correspondant à leurs besoins. Chaque année, le FNAP fixe à chacune des régions des objectifs en matière de logements locatifs sociaux pour chacune des catégories que nous allons voir, et puis délègue une enveloppe de dotation régionale permettant l'atteinte des objectifs. En 2020, ces objectifs n'ont été atteints qu'à 80% et on peut dire que c'est déjà pas mal. On verra si c'est vraiment le cas avec vous, Laurent Bresson, avec seulement 87 500 logements locatifs sociaux agréés, pour partie en raison du contexte de la crise sanitaire que, évidemment, on connaît tous maintenant. Et c'est pourquoi les acteurs de la politique du logement ont convenu en 2021 d'un effort particulier pour une relance ambitieuse de la production de logements sociaux. C'est l'objet du protocole en faveur de la relance de la production de logements sociaux en 2021 et 2022, conclu entre l'État, le mouvement HLM, la Banque des Territoires et Action Logement, dont nous allons parler ce matin. Alors pour commencer, Laurent Bresson, est-ce que vous pouvez nous préciser l'objectif de ce protocole qui a donc été conclu entre les acteurs de la politique du logement ?
Alors vous l'avez dit vous-même, cet objectif, il est ambitieux puisqu'il vise à une relance très très forte de la production et des engagements de logements locatifs sociaux sur deux ans, sur 2021-2022, avec un objectif total de 250 000 logements locatifs sociaux agréés sur deux années, dont 120 000 dès la première année, dès 2021. Donc vous voyez que par rapport à la situation de 2020 que vous avez vous-même décrite à l'instant, ça nécessite en fait un accroissement de l'activité d'à peu près 40%. À peu près 40% d'augmentation des agréments de logements locatifs sociaux dès la première année. Donc c'est vraiment une marche importante à franchir. C'est extrêmement ambitieux. Et derrière cet objectif quantitativement très ambitieux, il y a aussi évidemment un objectif ambitieux pour faire en sorte que cette production massive qui est attendue soit aussi fortement orientée vers ceux qui en ont le plus besoin, vers les ménages les plus démunis, les plus défavorisés, les plus éloignés aujourd'hui du logement locatif social, avec un objectif donc de 90 000 logements très abordables sur cet ensemble de 250 000 au total, 90 000 logements très abordables, financés en PLAI, en prêt locatif aidé d'intégration. Alors pour arriver à tout ça, plusieurs choses sont absolument nécessaires et sont prévues au protocole. Tout d'abord, avoir des aides d'un niveau suffisant et les mobiliser de manière accrue. J'y reviendrai, mais c'est vraiment un premier axe essentiel. évidemment produire un effort collectif en faveur de l'accompagnement des projets. Quand on a financé 87 500 logements et qu'on veut passer dès l'année suivante à 120 000, il est bien évident qu'il va falloir intervenir de manière extrêmement volontariste sur les opérations pour les soutenir, pour leur permettre de se développer et bref, s'inscrire dans les projets portés par les bailleurs sociaux pour les soutenir. Le troisième axe, c'est de rechercher aussi de l'innovation, des solutions nouvelles, des réponses nouvelles, parce que, encore une fois, on n'opère pas une telle augmentation du rythme de production en employant nécessairement les solutions ou les recettes du passé. Et puis, dernier point, mais qu'on pourra aussi détailler, c'est que pour arriver à tout ça, il va nous falloir une gouvernance collective renforcée, partagée. Et c'est aussi un des objets majeurs de ce pacte national pour la relance, de ce protocole national pour la relance de la construction locative sociale.
Alors ce protocole, on l'a dit, rassemble de nombreux acteurs. On a cité Action Logement, on a cité la Banque des Territoires, l'État évidemment. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les principaux et puis préciser à chacun leur rôle respectif ?
Oui, alors il y a quatre grandes parties prenantes à ce protocole pour la relance de la production locative sociale. Je citerai volontiers en premier les bailleurs sociaux, puisque ce sont eux finalement les producteurs, ce sont eux les maîtres d'ouvrage des opérations qui nous intéressent, représentés à la fois par leur fédération, par les différentes fédérations d'organismes, et au plan national par l'Union sociale pour l'habitat, par l'USH, qui rassemble elle-même l'ensemble des familles de logements locatifs sociaux. Donc c'est sur eux finalement c'est sur leurs épaules que va reposer très directement l'agrément de ces 250 000 logements locatifs sociaux. Et pour ça, l'action de l'Union sociale pour l'habitat et des fédérations est tout à fait déterminante, parce que bien évidemment, il y a un premier objectif qui est de faire connaître auprès de l'ensemble des organismes la totalité des dispositifs qui ont été mis en place pour ces deux années, de nous aider aussi à mieux suivre la réalité de la production et de se fixer ensemble des perspectives d'agrément clair, et puis de nous aider à identifier les éventuels points de blocage pour trouver des solutions, parce que avant tout ce partenariat il sert aussi à produire principalement des solutions pour nous aider collectivement à tendre vers l'objectif. Voilà, donc une première partie absolument essentielle qui représente finalement les maîtres d'ouvrage. Deuxième partie à ce protocole, tout à fait essentielle aussi, Action Logement. Action Logement, donc, qui, vous le savez, est gestionnaire de la participation des employeurs à l'effort de construction, qui va venir apporter, pendant ces deux années du plan de relance, des moyens tout à fait significatifs, extrêmement importants. Je vais citer là, pour le coup, quelques chiffres, hein, parce qu'ils sont absolument essentiels. Pour ce qui concerne la production de logements ordinaires, hein, en plus et en PLAI, 450 millions d'euros de subventions d'Action Logement sont mises en place sur les deux années du plan de relance, qui s'ajoutent à 250 millions d'euros de prêts, qui sont donc mobilisables également sur ces deux années. Alors, ces 450 millions d'euros de subventions pour les opérations fonctionnent finalement sur des droits ouverts, hein, affectés à chaque logement agréé, avec un barème national qui a été mis en place et qui est parfaitement clair et connu des organismes de logement social à l'avance. Donc, il n'y a pas de surprise. Je cite par exemple un exemple, hein, selon la localisation dans laquelle le logement est situé, un logement de type PLAI va bénéficier pendant ces deux années d'une subvention d'Action Logement qui, selon la zone, est comprise entre 1500 et 7000 euros par logement, selon le secteur dans lequel il se situe. Et c'est pas tout, puisque Action Logement a prévu aussi, dans le cadre de l'avenant à sa convention passée avec l'État, de débloquer des soutiens spécifiques à la production de logements pour les jeunes actifs et pour les étudiants, avec 65 millions d'euros de subventions dédiées à ces opérations, hein, toujours en locatif social évidemment, et 145 millions d'euros de prêts. Toutes ces aides d'Action Logement sont d'ores et déjà ouvertes. Elles sont ouvertes depuis le tout début du mois de mai, donc les choses sont allées très très vite, sur une plateforme en ligne, très simple à déclarer, très accessible aux bailleurs sociaux, sur laquelle ils n'ont qu'à déclarer leur projet. Et d'ailleurs, non, ils sont déjà nombreux à avoir commencé à le faire. Le troisième partenaire qu'il faut citer, partenaire lui aussi d'une certaine manière historique du logement locatif social, c'est la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts, qui, par son offre de prêts, hein, et en particulier les fameux prêts sur fonds d'épargne, hein, par son offre de prêts va évidemment constituer un financement tout à fait déterminant à cette production locative sociale et en complément de cette offre de prêt, si je puis dire, habituelle, la Caisse des dépôts amplifie, à l'occasion du plan de relance, son dispositif de souscription de titres participatifs auprès des bailleurs sociaux, qui constituent donc finalement un soutien supplémentaire absolument essentiel. Et puis enfin, dernier partenaire important de ce protocole national, bien sûr, l'État. L'État et son établissement public de référence en matière de gestion des aides à la pierre, le FNAP, le Fonds National pour les Aides à la Pierre, qui est un établissement public national. Alors là aussi, du côté de l'action de l'État, plusieurs évolutions importantes sont au rendez-vous. Tout d'abord, sur le plan budgétaire, le FNAP augmente sa participation aux aides à la pierre dès 2021 de 16%, avec plus de 565 millions d'euros de subventions d'aides à la pierre qui sont dédiées donc principalement aux opérations de type PLAI, puisque ce sont ces opérations qui sont prioritairement financées par les aides du FNAP, avec aussi un renforcement de l'action du FNAP sur un certain nombre de produits spécifiques. Je pense en particulier au développement de l'offre d'hébergement avec le produit social hébergement, le PSH, également une accélération du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, ces deux actions étant permises par des aides complémentaires prévues au plan de relance. Au total, 20 millions d'euros, 10 millions sur chacun de ces deux dispositifs, sont mobilisés et sont gérés par le FNAP grâce au plan de relance pour amplifier ces actions. Et puis enfin, n'oublions pas que l'État, c'est pas que des aides à la pierre, c'est aussi l'intervention d'un certain nombre d'opérateurs qui jouent un rôle absolument déterminant dans la production de logements locatifs sociaux. Et je voudrais au minimum à ce stade-là en citer deux. Les EPF, les établissements publics fonciers, et les EPA, les établissements publics d'aménagement. Alors sur les EPF, qu'est-ce que l'on peut dire ? On peut dire que la production de logements sur des terrains cédés par les EPF en 2021 devrait être très proche des résultats qui étaient déjà eux-mêmes exceptionnels qu'on avait connus en 2019, avec environ 18 500 logements, dont près de 40% locatifs sociaux. Et pour 2022, la production des EPF devrait atteindre de l'ordre de 22 000 logements, dont près de 8 000 logements locatifs sociaux. Donc on voit vraiment le rôle déterminant que joue cet outil foncier partenarial dans le soutien à la production de logements locatifs sociaux. Et on entend bien évidemment le mobiliser de manière adaptée. Et puis s'agissant des EPA, que peut-on dire ? Qu'en 2020, les EPA ont produit du foncier aménagé qui a permis d'accueillir 2341 nouveaux logements en 2021. Et pour 2021, la programmation de ces EPA, elle porte sur 3322 nouveaux logements, ce qui est là aussi, vous le voyez, tout à fait significatif. Donc ces opérateurs sont pleinement mobilisés. Et puis peut-être citer, pour terminer sur ces dispositifs nationaux, deux points complémentaires qui vont jouer aussi un rôle, même si pour partie ce rôle va s'inscrire aussi dans le plus long terme que la seule période du plan de relance. C'est tout d'abord la mobilisation grâce au plan de relance du fonds Friche. Je ne détaillerai pas ce dispositif parce qu'il l'a déjà été, sur cette antenne, mais simplement pour rappeler que le fonds Friche, 300 millions d'euros initialement, 441 projets lauréats, et une annonce le 17 mai dernier d'abondement de l'enveloppe, une annonce par l'État d'abondement de l'enveloppe à hauteur de 350 millions d'euros supplémentaires. Donc voilà une mobilisation d'un outil absolument essentiel pour accélérer, pour amplifier le recyclage foncier. Et vous voyez que c'est parfaitement cohérent avec les objectifs poursuivis par ailleurs en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. Et puis, dernier dispositif que je voudrais citer, qui lui aussi est un levier important de cette relance de la production locative sociale, c'est la charte qui a été conclue récemment entre l'État et la SNCF, conclue le 28 mai 2021, et qui va permettre, sur la période 2021-2025, on est, vous voyez, sur un terme un peu plus long que le seul plan de relance, qui va permettre de libérer des terrains de la SNCF qui vont permettre la production de 15 000 à 20 000 logements. Et sur ces 15 000 à 20 000 logements, l'objectif, la cible, est d'arriver à dégager au moins 35% de logements locatifs sociaux. Voilà, par ces quelques exemples, en fait, je voulais vraiment montrer que tous les leviers sont actionnés par l'ensemble des partenaires. Et du coup, je pense que, même si l'objectif est extrêmement ambitieux, je pense qu'on peut réellement, grâce à cette mobilisation conjointe, être optimiste. Et en ayant aussi en tête, et je terminerai là-dessus pour répondre à votre question, en ayant aussi en tête que Derrière tout ça, derrière ces 250 000 logements locatifs sociaux supplémentaires, il y a pas loin de 40 milliards d'investissements. 40 milliards d'investissements, alors pas uniquement sur deux ans, bien évidemment, c'est des investissements qui vont s'étaler sur toute la durée de réalisation et de production, tout le cycle de production de ces 250 000 logements locatifs sociaux. Mais je voulais quand même citer aussi ce chiffre de 40 milliards, parce qu'il est aussi, je pense, illustrateur de l'importance que va jouer cette relance de la production locative sociale dans le soutien à l'économie du bâtiment et, de manière générale, dans le soutien à l'économie tout court.
Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le fonds friche, je les invite à écouter le podcast d'IMAC de l'urbanisme, à retrouver évidemment sur Radio Territoria. Laurent Bresson, vous l'avez dit, tous les leviers sont activés, le projet est ambitieux. Les moyens sont donc exceptionnels pour soutenir la production de logements sociaux pour les deux ans à venir. Comment est-ce que vous avez prévu d'assurer le suivi de cette production et puis de mobiliser l'ensemble de la chaîne de production autour de ces objectifs, qu'on l'a dit, très ambitieux ?
Bon, là, très clairement, on est vraiment sur un dispositif, là aussi, très mobilisateur et si je puis dire, à plusieurs étages. Alors, finalement, les choses ont commencé quand même dès le début de l'année, puisque je crois qu'il faut reconnaître que chacun des partenaires, signataires du protocole national, a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour permettre un déploiement anticipé de cette programmation 2021, à tous les points de vue. Le FNAP s'est réuni très tôt dans l'année. L'État a produit sa circulaire de programmation annuelle dès le 17 février, ce qui, là aussi, vous voyez, témoignait d'une volonté d'aller vite. Le protocole national, lui, signé dès le 19 mars aussi. Et puis, nous avons fait en sorte aussi de pouvoir ouvrir la gestion des aides à la pierre, notamment tout le volet des systèmes d'information, parce que tout ça est évidemment très instrumenté en termes de systèmes d'information. Nous avons fait en sorte d'ouvrir l'année de gestion dès le 25 mars, soit près d'un mois plus tôt que d'habitude. Donc voilà, déjà un premier axe qui est anticipé et accéléré. Ensuite, bien évidemment, la mise en place d'une instance de pilotage national, l'instance qui est là pour piloter le protocole national. Et cette instance, elle a connu déjà sa première réunion la semaine dernière, le 8 juin dernier, en présence de la totalité des parties signataires. Le troisième axe que je voudrais citer, c'est l'importance donnée à l'échange des données, au partage de l'information. On produit tous des tableaux de bord, on a tous des instruments de reporting. Il y a un enjeu essentiel dans la réussite de cet objectif, c'est que tout ça soit mis en partage, tout ça fasse l'objet d'échanges réguliers et crée aussi, d'une certaine manière, une vraie forme d'émulation. C'est aussi ça qui est recherché au travers de ces divers instruments. Et ça aussi, c'est en place. Désormais, chaque semaine, avec la totalité des partenaires, nous échangeons la totalité de nos données et des mesures que l'on peut réaliser et c'est absolument indispensable. Et puis il y a la mobilisation très opérationnelle de tous les acteurs à tous les échelons territoriaux. Alors ça va du niveau national avec des rencontres très très régulières avec les grands élus, les présidents de métropole notamment, avec les fédérations d'organismes lors de réunions bilatérales, des réunions mensuelles avec les préfets, avec les sous-préfets chargés de la relance qui sont placés auprès d'eux, avec les services déconcentrés de l'État qui sont extrêmement mobilisés, je voudrais le signaler, et avoir aussi une pensée particulière pour eux en ce jour de cette émission, en particulier les DREAL, les DDT, les DDTM, les DEAL en Outre-mer, qui jouent un rôle absolument essentiel dans la déclinaison de ce plan de relance auprès des bailleurs sociaux et auprès des collectivités locales. Et puis, bien évidemment, de notre côté, on est en interface régulière, j'allais dire presque quotidienne, c'est pas loin d'être le cas, avec ces services déconcentrés, pour tenir ensemble des réunions de pilotage qui, là aussi, nous permettent de mettre le doigt sur les difficultés rencontrées et de mobiliser les outils qu'on peut imaginer pour les résoudre. Et puis enfin, dernier point que je peux citer là-dessus, sur ces dispositifs de pilotage, c'est que tout au long de l'année, on va réaliser très régulièrement, on ne va pas se contenter de mesurer les résultats obtenus, on va aussi réaliser en continu, à différentes époques, des enquêtes perspectives pour s'assurer que finalement, on est globalement à peu près sur le chemin de l'objectif de 250 000 sur deux ans, avec donc des premières enquêtes perspectives dès la fin de ce mois de juin.
Quels sont les enjeux portés par la programmation du logement locatif social ? Est-ce que certains territoires sont spécifiquement visés par cette programmation ? Je pense notamment aux zones très tendues où on sait qu'il est difficile d'intégrer des logements sociaux.
Oui, alors tout à fait. C'est bien évident que l'effort doit être évidemment prioritairement dirigé vers les secteurs dans lesquels la demande est la plus forte, vers les secteurs dans lesquels finalement le déséquilibre offre-demande est le plus important, c'est-à-dire les territoires les plus tendus. Vous savez que ces territoires les plus tendus font l'objet d'un classement, hein, le fameux zonage dit ABC, qui est un bon indicateur de ce niveau de tension des territoires. Et bien évidemment, une grande partie de la programmation est ciblée prioritairement sur les territoires les plus tendus. Ce qu'on peut retenir globalement, hein, c'est qu'à peu près les deux tiers des moyens de la programmation nationale des aides à la pierre est ciblé et priorisé sur ces territoires les plus tendus. Le deuxième axe que je voudrais citer, plus qualitatif, hein, c'est bien évidemment le ciblage prioritaire des aides vers les logements les plus sociaux, vers les logements les plus abordables, hein, encore une fois ceux qui sont destinés aux ménages les plus démunis qui en ont le plus besoin. Et en particulier dans les zones tendues, puisque pour ces ménages-là, c'est bien dans les zones tendues qu'il est le plus difficile de se loger. Donc vous l'avez compris, finalement, il y a un système, finalement, d'une certaine manière, de progressivité des aides. Plus le produit présente un caractère social et plus le secteur dans lequel le logement produit est lui-même tendu. Hein, ces deux facteurs conjugués assurent une progressivité, finalement, du niveau des soutiens. Et finalement, cette orientation hein, en faveur des produits les plus sociaux, elle est également parfaitement cohérente hein, avec une autre orientation, une troisième orientation hein, et qui est celle de la loi SRU, hein, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui, comme vous le savez, priorise aussi la production nouvelle de logements locatifs sociaux sur les communes qui en sont aujourd'hui les plus dépourvues, les plus déficitaires. Et dans ce dispositif SRU figure également un objectif hein, qui consiste à faire en sorte que 30%, au moins 30% de la production que sont tenues d'assurer ces communes, elles sont un peu plus de 1000 aujourd'hui, un peu plus de 1000 communes qui sont soumises à une obligation de rattrapage de leur offre de logement social, ces communes doivent, dans leur offre nouvelle, comprendre au moins 30% de PLAI pour s'assurer que finalement l'offre locative sociale qu'elles développent est bien en partie accessible à tous les ménages qui le souhaitent. Puis enfin, je voudrais quand même avoir un mot pour, et c'est bien légitime, pour les territoires les moins tendus, pour les territoires aussi les plus ruraux, parce qu'il ne faudrait pas penser que dans ces territoires-là, il n'y a pas de besoin. Il y a des besoins qui peuvent être même tout aussi essentiels pour le territoire lui-même. Simplement, ces besoins sont souvent plus de l'ordre du qualitatif que du quantitatif. Requalification de centres-bourgs, traitement de centres anciens, d'îlots d'habitat dégradés, redynamisation de centres-villes ou de villes moyennes. Là, encore une fois, d'ailleurs, tout autant d'objectifs qui sont parfaitement cohérents avec cette recherche de la lutte contre l'artificialisation des sols et qui vont aussi, pour certains, se croiser. Ces orientations vont se recroiser avec des objectifs portés par des grands plans nationaux. Je pense en particulier à Action Cœur de Ville, à Petite Ville de Demain. Je pense en particulier aussi au dispositif des opérations de revitalisation territoriale, des ORT. Donc sur ces territoires où les besoins sont d'une nature différente, il est prévu aussi, bien évidemment, de réserver une part de la programmation pour développer des produits spécifiques. Alors là, on est encore une fois dans des réponses ciblées, des réponses à certains segments de la demande et qui sont en général relativement décorrélées des problématiques de tension du marché.
Est-ce qu'on peut parler des publics qui sont concernés par le logement social? On sait que les ménages les plus fragiles ont particulièrement souffert de la crise sanitaire, tout comme les jeunes actifs et puis les étudiants dont on a beaucoup entendu parler aussi. Comment l'offre nouvelle s'adapte-t-elle aux besoins spécifiques de ces différents publics?
Alors, c'est une très bonne question. Et bien évidemment, l'offre nouvelle est très largement dédiée à ces publics spécifiques hein, qui constituent finalement des cœurs de cible hein, de la programmation nationale et cœurs de cible qui sont d'ailleurs déclinés à l'échelle de chaque territoire. Peut-être tout d'abord hein, souligner que nous avons au cours de ces deux années de relance une programmation très ambitieuse en matière de logement abordable, de logement notamment accompagné. Alors là, pour le coup, on est sur des produits qui visent très clairement à répondre directement aux besoins du plan pour le logement d'abord. Ce plan pour le logement d'abord, en fait, il va bénéficier pleinement de cette relance, de cette accélération de la production locative sociale très abordable, avec là, pour le coup, des objectifs très précis qui nous ont été fixés nationalement. Tout d'abord, un objectif de produire 4000 logements très sociaux financés en PLAI adapté, le PLAI A, qui est donc finalement la strate la plus, si je puis dire, la plus accessible, la plus sociale du logement social, avec donc des moyens du FNAP qui sont réservés pour ces 4000 logements PLAIA. 4000 logements PLAIA, ça représente un quasi-doublement par rapport à l'année dernière, qui était d'ailleurs déjà une année de progression. On a vu que globalement l'année 2020 était une année peu satisfaisante en matière globale, en matière d'agrément de logements locatifs sociaux. Pas pour le PLAIA. Le PLAIA avait enregistré une poursuite de sa croissance, qui est quand même assez significatif aussi et qui illustre bien d'ailleurs la réalité des besoins sur ce type de produit. Donc avec cette année, un objectif de doubler. On passait passer à 4000 logements PLAIA. Ce qui veut dire que pour arriver à atteindre cet objectif sur les 4000 PLAIA, on va être obligé de sortir d'une approche un peu qui prévalait jusqu'à présent de produits de niche. On ne peut plus désormais, avec un tel objectif, considérer que le PLAIA est un produit de niche, un produit spécifique qui vise à être porté par des maîtres d'ouvrage spécifiques ou particuliers uniquement. Je pense en particulier aux maîtres d'ouvrage d'insertion, aux MOI. Désormais, le PLAIA doit reposer sur une production de tous les opérateurs et notamment de tous les bailleurs sociaux. Et c'est pourquoi nous avons souhaité donner cette orientation que l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des maîtres d'ouvrage, des bailleurs sociaux, puissent prévoir dans sa programmation, à l'échelle de chaque organisme, une part de 4%, de PLAIA représentative de la contribution de chaque organisme à l'effort en matière de PLAIA qui est attendu et qui, encore une fois, est vraiment légitime. Et puis, on peut citer aussi, sur ce champ du logement d'abord, un objectif de poursuite de la croissance de la production des logements en pension de famille. Les pensions de famille, vous savez, qui sont donc des structures de logement, mais de logement dans un cadre partagé et propice, du coup, à constituer une première étape dans un parcours résidentiel, puisque c'est vraiment ça qui est souhaité, permettre de fournir des marches d'accès à des parcours résidentiels. Donc avec un objectif dès 2021 de produire, d'engager, de financer 2100 logements en pension de famille. Donc ça, c'est pour tout le champ du logement d'abord et donc des ménages les plus démunis. Et sur le champ, pour le coup, des publics jeunes et notamment des étudiants, reconduction d'un objectif ambitieux au plan national, de pouvoir faire en sorte que sur les 120 000 logements attendus cette année, au moins 10 000 soient des logements à destination des jeunes publics, des étudiants, des jeunes actifs, alors qu'il s'agisse soit de profils de format de type résidence pour étudiants, mais qu'il s'agisse aussi de logements plus ordinaires, de logements plus classiques, et en s'appuyant notamment sur un dispositif extrêmement intéressant et qui commence d'ailleurs à se développer, même s'il n'est pas encore aujourd'hui suffisamment connu et suffisamment utilisé, alors qu'il est particulièrement adéquat. C'est ce dispositif qui a été ouvert par l'article 109 de la loi Elan, et qui permet du coup de mettre en place pour ces logements dédiés aux jeunes publics, étudiants, jeunes actifs, jeunes de moins de 30 ans, des modes de gestion locative spécifiques, adaptés et particulièrement favorables à ce jeune public dans le logement locatif social.
Tous ces objectifs, comment ils se déclinent dans les territoires ? On pense notamment en particulier à la prise en compte dans cette programmation de l'article 55 de la loi SRU qui impose à certaines communes de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux qui soit proportionnel à leur parc de résidence principale.
Alors tout à fait, on revient sur l'article 55 de la loi SRU parce que c'est vraiment un des moteurs de la production locative sociale en France depuis 20 ans maintenant, il faut quand même l'avoir en tête, hein. Et ce moteur est tout à fait essentiel, d'autant que c'est un moteur qui cible encore une fois vers les zones à la fois tendues et où les besoins liés au déficit de l'offre, hein, sont les plus importants. Déjà d'où on part à peu près ? On part d'une situation, même si elle s'est malheureusement un peu dégradée depuis 2 ans, il faut l'avoir en tête. On part d'une situation dans laquelle, ces dernières années, à peu près un logement locatif social sur deux, c'est important, un logement locatif social sur deux, est produit dans des communes déficitaires au sens de la loi SRU. Hein, donc on part quand même d'une situation dans laquelle on voit bien ce rôle majeur que joue la SRU dans le dispositif de production. Donc on voit quand même qu'aujourd'hui, le dispositif, il oriente bien, il cible bien sur ces territoires, sur ces 1000 communes, un peu plus de 1000 communes que je citais tout à l'heure, qui présentent en fait aujourd'hui le plus fort déséquilibre offre-demande de logements locatifs sociaux. Néanmoins, là-dessus, un vrai point de vigilance, un vrai point d'attention qui doit interpeller partout dans les territoires, c'est que ce ratio finalement de 50%, de 1 sur 2, s'est un peu dégradé ces dernières années. Et je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, hein, depuis l'année dernière, depuis 2020, il est plutôt tombé, il s'est plutôt rapproché des 45% que des 50% où il était antérieurement. C'est un vrai point de vigilance. Il faut absolument que dès cette année, dès 2021, on puisse corriger cette situation et venir réabonder la production locative sociale dans les communes déficitaires, d'autant plus qu'elles en ont vraiment besoin, puisque elles-mêmes sont soumises à des objectifs triennaux, hein, de par la loi, des objectifs de production triennaux, et que, d'une certaine manière, ces objectifs triennaux leur imposent, leur commandent de produire annuellement, actuellement, de l'ordre de 95 000 logements locatifs sociaux. Donc vous voyez la part que ça représente, hein, 95 000 logements locatifs sociaux, sur un objectif annuel, sur un objectif national de 120 000. De 120 000. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être très clair, hein, cette situation d'un peu moins d'un logement locatif social sur deux en commune et SRU n'est plus suffisante. Il va falloir accélérer, il va falloir amplifier la production sur ces territoires-là pour que, d'une certaine manière, on puisse permettre aux communes concernées d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Et d'ailleurs, nombre d'entre elles d'ailleurs se mobilisent en ce sens. Il faut le souligner, avec souvent d'ailleurs le soutien des intercommunalités et des EPCI qui sont aussi très mobilisés dans l'appui apporté aux communes déficitaires SRU pour qu'elles augmentent leur production. Bien évidemment, je vous ai donné là des valeurs et des chiffres nationaux. Tout ça est ensuite décliné au plan local, hein, d'abord à l'échelon régional, sous l'égide des préfets de région qui opèrent une répartition entre les différents territoires de gestion, les départements, les territoires des délégataires pour les aides à la pierre, hein, avec une répartition qui évidemment est fondée sur une analyse partagée des besoins. Et cette analyse partagée des besoins, elle est notamment exprimée dans un cadre de gouvernance régionale que sont les CRHH, hein, les comités régionaux pour l'hébergement et l'habitat. Et puis, après, bien évidemment, à l'échelle de chaque territoire de gestion, où est mis en place un dispositif spécifique pour piloter le plus efficacement possible cette déclinaison annuelle de la programmation nationale.
Pour terminer, Laurent Bresson, un petit mot peut-être pour les collectivités qui nous écoutent. Est-ce que vous pourriez leur préciser ce qu'on attend d'elles et en particulier ce qu'on attend de celles qui sont délégataires des aides à la pierre ?
Alors avant peut-être d'évoquer une attente à l'égard des délégataires, des collectivités délégataires, peut-être rappeler quand même l'importance du rôle qu'elles jouent aujourd'hui, puisqu'elles ont acquis au cours de ces 15 dernières années, hein, un rôle tout à fait essentiel dans la gestion des aides à la pierre. Déjà peut-être pour resituer les choses, hein, on a au niveau national à peu près aujourd'hui 110 délégataires des aides à la pierre, 110 territoires donc sur lesquels les aides à la pierre sont déléguées par l'État à un EPCI ou un département, puisque ce sont les deux catégories de collectivités éligibles. Hein. Bon, très majoritairement des EPCI, hein, sur les 110 délégataires, à peu près 80 EPCI, et une trentaine de départements, sachant qu'aujourd'hui, la situation est désormais relativement stable en matière de délégation des aides à la pierre. Quand je disais que ces délégataires ont acquis un rôle de premier plan tout à fait significatif, là aussi peut-être citer un chiffre, hein. ces dernières années, hein, les délégataires, les territoires en gestion déléguée, ont représenté plus de 50%, plus de 50% des aides à la pierre, hein, 53% exactement. Donc on voit vraiment le rôle absolument crucial que jouent désormais ces territoires dans l'exécution et la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre de la programmation nationale. Alors, du coup, maintenant, peut-être pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut plus particulièrement attendre de ces territoires ? Et bien évidemment, la première attente, c'est que ces territoires, chacun à leur niveau, et c'est leur intérêt de toute façon, hein, participent pleinement à la relance qui est attendue. En facilitant les opérations, en mettant en place le dispositif de pilotage que j'évoquais tout à l'heure, qui vraiment doit être décliné à toutes les échelles de territoire, en visant aussi la plus grande fluidité dans les procédures, dans la gestion des dossiers, dans l'instruction, c'est absolument essentiel. Et puis, comme je l'ai dit aussi pour les autres, en identifiant les difficultés, les points de blocage, les sujets à résoudre pour qu'on arrive à les dépasser. Et je rappelle d'ailleurs que chaque fois que c'est nécessaire, hein, les services déconcentrés de l'État sont disponibles et sont là aussi pour soutenir, aider, appuyer les collectivités délégataires. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. La deuxième attente, c'est bien évidemment d'engager au plus vite les crédits qui sont mis à disposition des collectivités. On est encore une fois dans une logique, dans un contexte de relance. Bien évidemment, les moyens, et notamment les moyens budgétaires, doivent aller au plus vite au soutien des opérations, aller au plus vite au soutien à l'économie. Et là aussi, c'est vraiment un objectif qui doit être totalement partagé par tout le monde. Peut-être une mention particulière sur les différents délégataires pour souligner que nous avons aussi un niveau d'attention un peu particulier pour certains grands territoires, et je pense en particulier aux territoires les plus urbains, souvent d'ailleurs les territoires les plus tendus. Je pense en particulier aux métropoles, puisque les métropoles sont délégataires pour les aides à la pierre, comme vous le savez. Et dans ces métropoles, en fait, on a constaté, et d'ailleurs ça peut s'expliquer par certains facteurs très objectifs, hein, on a constaté qu'en 2020, les difficultés à produire, à agréer, avaient été encore plus fortes que sur les autres territoires, hein, puisqu'on a finalement sur ces territoires de métropole un taux de réalisation des objectifs plus bas que la moyenne nationale. Vous l'avez dit, la moyenne nationale l'an dernier, 80% d'atteinte des objectifs. Dans les métropoles, c'est plus de 10 points de moins, hein, 68%. Ça veut dire que dans ces territoires métropolitains, on a évidemment un enjeu encore plus particulier, encore plus fort cette année, et qu'il va falloir être encore plus attentif et encore plus mobilisé pour faire en sorte que la relance opère sur ces territoires qui, encore une fois, sont souvent ceux sur lesquels les besoins sont les plus importants. Et puis, bien évidemment, dernière attente que je voulais souligner, c'est d'accompagner la production sur tous les segments de l'offre, hein, en particulier les logements les plus sociaux, encore une fois, j'y reviens, les PLAI, les PLAIA, les pensions de famille, et bien évidemment, dans les communes déficitaires au titre de la loi SRU, qui doivent évidemment aussi guider la programmation des délégataires des aides à la pierre. Alors, il y a évidemment les 1000 communes déficitaires en logements locatifs sociaux, ça c'est sûr. Et à l'intérieur de ces 1000 communes déficitaires en logements locatifs sociaux, avoir aussi une attention encore plus forte, encore plus particulière pour les 280 communes qui font l'objet depuis cette année d'un constat de carence, hein, au titre de l'article 55 de la loi SRU, au regard de leur réalisation du triennal passé, le triennal 2017-2019. Voilà, vous voyez donc que on attend effectivement beaucoup, mais on ne se contente pas d'attendre beaucoup, on est aussi très mobilisé pour être en soutien de l'action de ces territoires délégués dans le cadre d'un véritable partenariat entre collectivités, services de l'État et bailleurs sociaux.
Un accompagnement donc bien présent, on le comprend. Merci Laurent Bresson. Vous restez bien avec nous. On a encore quelques questions pour vous, mais cette fois, elles viennent de nos auditeurs. On va répondre à toutes leurs questions.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Et pour répondre aux questions des auditeurs, il y a évidemment Michel Philippe.
Oui, Johanna, donc nous avons encore peu de questions sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons néanmoins commencer par une première question de Karine qui demande des précisions sur l'articulation entre les nouvelles aides d'Action Logement pour la production de logements sociaux avec les aides du FNAP et les procédures d'agrément.
Bien alors Karine, les choses sont vraiment très simples. Je pense qu'en termes d'articulation, on pouvait pas faire plus simple, puisque en fait, finalement, pour pouvoir bénéficier des aides d'Action Logement, qui sont donc des aides ouvertes, encore une fois, je le dis, hein, à tous les logements plus et PLAI, la seule condition pour bénéficier de l'aide d'Action Logement, c'est de bénéficier également d'un agrément de l'État. Mais en sachant que cet agrément de l'État peut également aussi avoir été obtenu après l'aide d'Action Logement. En fait, tout est possible. Je pense qu'on ne peut pas faire plus souple comme dispositif. Il faut qu'il y ait donc finalement la double aide, État-Action Logement, mais peu importe dans quel sens les choses se font. Et c'est pourquoi d'ailleurs Action Logement a pris l'initiative d'ouvrir dès le début du mois de mai une plateforme de télédéclaration pour les bailleurs sociaux pour leur permettre de télédéclarer leur projet au stade finalement de programmation voire de pré-programmation. Mais voilà, j'insiste vraiment, le dispositif est un dispositif à droit ouvert, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection, de filtrage des opérations. Et d'autre part, les bailleurs sociaux peuvent adresser par cette plateforme, qui d'ailleurs est ouverte jusqu'au 15 juillet, peuvent adresser à Action Logement leur programmation et leurs opérations avant même d'avoir obtenu l'agrément de l'État, qui peut être tout à fait obtenu après. Du coup, vous voyez que le dispositif est extrêmement souple. Et c'est normal, puisqu'il a été voulu comme tel.
On va donc passer à une seconde question de Frédéric qui demande si on pourrait apporter quelques éléments sur les aides du plan de relance à la réhabilitation, à la rénovation des logements locatifs sociaux. C'est un sujet un petit peu différent, mais on a peut-être quelques minutes pour donner quelques éléments sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un volet absolument essentiel du plan de relance, hein, que cette aide à la restructuration, réhabilitation lourde et rénovation énergétique des logements locatifs sociaux, puisque finalement, le plan de relance est doté, hein, pour les deux années qui viennent, d'une enveloppe de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros qui doivent permettre de réhabiliter au moins 40 000 logements locatifs sociaux. Et d'une certaine manière, ce dispositif, il comporte trois volets. Le premier, que je ne détaillerai pas parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est un volet spécifique à l'outre-mer, hein, avec 15 millions d'euros qui sont dédiés à l'outre-mer. Le deuxième volet, c'est un dispositif national qui est déployé dans le cadre d'un appel à projet national qui s'appelle MassiRéno. Alors MassiRéno pour rénovation énergétique massive, faisant notamment appel à des techniques d'intervention de type industriel. On parle parfois aussi d'énergie Sprong dans d'autres pays. Donc cet appel à projet MassiRéno, il a eu lieu, il est clos désormais. Hein. Il a permis de retenir une dizaine d'opérations représentant plus de 2000 logements. Et de l'ordre de 40 millions d'euros de subventions qui vont être prochainement donc distribués aux lauréats de cet appel à projet national, d'ailleurs qui vont être distribués de manière déconcentrée, hein, dans le cadre du circuit des aides à la pierre, puisque c'est ce circuit qui va être utilisé pour mobiliser ces 40 millions d'euros du programme MassiRéno, et qui va donc être traité désormais à l'échelon territorial, puisque les dossiers sont désormais sélectionnés. Ça veut dire que chaque territoire va recevoir prochainement, dans les semaines qui viennent, des dotations complémentaires pour pouvoir financer cette dizaine de projets MassiRéno qui couvrent 6 régions. Et puis le troisième élément, le principal, l'essentiel, hein, pour à peu près 445 millions d'euros, c'est le dispositif, là pour le coup, d'aide à la restructuration rénovation énergétique, hein, qui lui est totalement déconcentré, qui est mobilisé au plus près des besoins dans les territoires, hein, c'est-à-dire par les territoires de gestion, que ce soit les territoires gérés par l'État, les DDT, des DTM, ou par les délégataires des aides à la pierre qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, pour le coup, les choses sont désormais très très bien engagées, puisque à ce jour, nous avons près de 8 000 logements qui sont d'ores et déjà financés, qui font l'objet d'une aide mobilisée pour près de 78 millions d'euros de subventions déjà accordées. On voit que on va être sans difficulté en capacité, au titre de ce troisième volet, de financer de l'ordre de 20 000 logements dès cette première année. Et les territoires nous ont même fait remonter des besoins complémentaires, hein, des besoins complémentaires qui permettraient de s'approcher dès la première année, le cas échéant, des 30 000 logements financés. Donc c'est extrêmement positif. Bien évidemment, de notre côté, hein, nous rechercherons les solutions, les possibilités de moyens complémentaires en anticipation sur l'année 2022, dès 2021, des moyens complémentaires pour, le cas échéant, permettre de satisfaire ces projets qui sont d'ores et déjà identifiés sur les différents territoires et qui peuvent faire l'objet d'un accompagnement dès 2021. Et bien évidemment, si nous obtenons ces moyens complémentaires, là aussi, les délégueront le plus rapidement possible au territoire de gestion, puisque, encore une fois, ce dispositif est géré de manière déconcentrée. L'important maintenant sur ce dispositif, puisque là vraiment on est au cœur du plan de relance, c'est que l'accélération qu'on a constatée au cours des dernières semaines, hein, qui nous a permis, donc, comme je l'ai dit, de financer près de 8 000 logements aujourd'hui, se poursuivre et qu'elle ne cesse pas, parce que là aussi l'objectif, c'est d'atteindre la totalité des objectifs le plus rapidement possible, parce qu'on est dans le plan de relance. Alors on est certes sur des opérations qui sont extrêmement importantes pour le patrimoine, pour les territoires concernés, pour les habitants, mais il y a aussi cette vraie logique d'accélération qui est à rechercher, puisqu'on s'inscrit dans le cadre du plan de relance.
Merci Laurent Bresson pour toutes ces précisions et toutes ces réponses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes sous-directeur des politiques de l'habitat à la direction chargée de l'habitat et de l'urbanisme des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci à vous. Et puis merci à vous Michel Phelep d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes vous chargé de mission animation territoriale au sein de la direction chargée de l'habitat et de l'urbanisme des ministères en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Cette émission est désormais disponible en podcast. Vous pouvez la retrouver ainsi que tous les numéros précédents du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du territoire sur le site de Radio Territoria, sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels. On se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement. Je vous souhaite une très bonne journée.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère en charge du logement, à réécouter et à télécharger sur Radio Territoria et toutes les plateformes d'écoute habituelles.